Le premier verset qui a été lu, Matthieu 22, où le Seigneur rappelle ce que Dieu avait fait écrire à Moïse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ce verset-là sera un peu notre fil toute la journée et particulièrement cet après-midi parce que je dis un mot concernant l'étude biblique de cet après-midi. L'objectif n'est pas un débat de spécialistes, un débat d'opinion. Est-ce que l'être humain est composé de deux parties ou de trois parties? En tout cas, ce n'est pas ça, premièrement. Si la Bible emploie des mots très variés pour qualifier l'être humain, c'est pour que celui-ci puisse aimer Dieu de tout son être. C'est pour que l'être entier aime Dieu. Alors, pour ce matin, ça fait longtemps que je ressentais ce désir de parler de notre cœur. Mais avant ça, je veux dire un mot encore. Y a quelque chose de très précieux à écouter les prières des autres. Et ce matin encore, quand l'un puis l'autre a prié, les choses qui sont dites, alors d'abord, elles sont dites à Dieu. Et c'est la première chose qui est bénissante pour celui qui écoute. C'est que quelqu'un parle à Dieu. Quand les autres prient, ils ne me parlent pas à moi. Ils parlent à Dieu. Et souvent, ils parlent de lui. Mais en parlant de lui, ils parlent à lui. Et ça, c'est particulièrement bénissant et nourrissant parce que écouter les prières des autres, pour peu que je me positionne clairement, ce n'est pas à moi qu'on parle, c'est à Dieu. Écouter leurs prières, ça me tourne vers Dieu. Et ça me met face à Dieu d'une façon particulière. Et c'est probablement une des raisons les plus centrales pour laquelle la Bible dit de prier ensemble, de prier en Église, et pas seulement seul chez soi. Alors, notre cœur, je ne sais pas pourquoi en vérité, au début j'étais un peu perdu parce que je me sentais poussé presque à repartir à zéro au sujet de ce que la Bible dit sur notre cœur. Et alors j'ai passé des jours, des jours, des jours à regarder des centaines de versets au sujet du cœur dans la Bible. Dans l'Ancien, évidemment, d'abord dans les Écritures les plus anciennes, puis dans le Nouveau Testament. J'ai voulu me départir un peu de mes idées toutes faites et des idées toutes faites de notre culture évangélique, de notre époque. Peut-être aussi de notre culture française, occidentale, et j'ai été vraiment touché par la manière dont les différentes choses qui sont écrites au sujet de notre cœur, la manière dont elles sont articulées. Et tout le temps, il y a une chose qui revient sans cesse, c'est que c'est à la fois exhortant, stimulant, encourageant et à la fois avertissant. Et donc, je commencerai par dire un verset extrêmement connu, Proverbe 4, verset 23, Garde ton cœur plus que toute autre garde, littéralement. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute garde. Il y a un accent sur garde, donc le mot est doublé. De lui viennent les sources de la vie. Comment il faut comprendre ça? Malheureusement, ce verset sert souvent d'alibi. À la nature humaine qui aime bien être centrée sur soi. Et donc, on dit, ah, tu vois, c'est de mon cœur que tout sort. Voilà, je suis l'origine de tout, je suis le centre de tout. Donc, bien entendu, ça ne peut pas être le sens du verset. De lui viennent les sources de la vie, ça ne veut pas dire que c'est mon cœur qui est le créateur de tout, ni le rédempteur de tout, ni celui qui a fait la promesse de vie éternelle, etc. Voilà, donc il faut faire attention quand même. Voilà, donc dans le contexte global du début de Proverbe, c'est un père qui parle, mon fils. Et donc vers la fin, il dira, mon fils, donne-moi ton cœur. Et ça sera notre focus pour la deuxième partie de la prédication. Mais pour toute la première partie, le focus, c'est garde ton cœur. Et même, comme dit Jérémie, qui peut le connaître? Alors, un père parle, mais pas n'importe quel père. Un père qui veut référer ses enfants à l'Éternel. Et ça commence comme ça, hein, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et puis chapitre 1er, chapitre 9 aussi, ou 10, chapitre 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, si je relis chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute garde, mais si je remonte 2, 3 versets, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Et donc, mes paroles, mes discours, là, paternel, et ça inclut maternel, en vérité, viennent de Dieu. Et donc, garde ton cœur. Plus que toute garde, ça veut dire garde-le attentif à Dieu, à ses paroles, à ses œuvres. Et c'est en étant tourné vers Dieu, évidemment, que le cœur est source. C'est-à-dire, vous savez, Jésus dit « l'homme bon » tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur ou de son bon trésor et un autre homme tire des choses de son mauvais trésor et donc de lui les sources de la vie, ben ça veut dire ton parcours de vie, tout ton parcours de vie résulte de vers où ton cœur est tourné. Alors, j'ai dit encourageant et avertissant. C'est extrêmement encourageant que le fait d'écouter Dieu télécharge dans nos cœurs ce qui est de lui. Par exemple, l'Éternel fait écrire à Moïse, lui fait dire au peuple d'Israël, « Tu mettras dans ton cœur et dans ton âme toutes ces paroles. » Voilà. Ça, alors, ce n'est pas autre chose que « Écoute, Israël, mes paroles, tu les écouteras. » C'est le même sens. Simplement, bien les écouter, c'est les mettre dans notre cœur, c'est-à-dire les recevoir vraiment, les chérir, les valoriser, les garder, y réfléchir, y revenir, comme il est écrit au sujet de Marie, elle repassait ces choses dans son cœur. Voilà, donc extrêmement encourageant, extrêmement encourageant. Et en même temps, il y a un avertissement permanent dans la Bible, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, un avertissement. Et donc, voilà, une des formulations qui m'a touché là, c'est « qui peut le connaître ?» Le cœur est tortueux par-dessus tout, et même il est écrit, il est méchant. Qui peut le connaître? Et c'est pour ça que je précise Nouveau Testament inclus, parce que quelqu'un, nous pouvons objecter, mais mon cœur est régénéré. Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils. Oui, il y a un cœur nouveau qui est donné. Et en même temps, nous restons humains, charnels, tentables. Et donc, qui peut le connaître? Alors, quelques mots sur la façon dont la Bible parle du cœur. Alors, bon, quelquefois au sens cardiaque, hein? Il y a Jéhu, quand il fait le grand ménage, parce que Dieu l'envoie pour ça, avec son arc, il frappe Joram entre les épaules, c'est écrit dans 2 Rois 9, et la flèche sortit par le cœur. Et là, on voit bien que ce cœur-là, ce n'est pas les entrailles, c'est bien entre les épaules. Donc, c'est clairement le cœur cardiaque au sens où on l'entend aujourd'hui en français. Ensuite, donc, il y a quelques emplois du mot comme ça. Il y a davantage d'emplois du mot au sens de l'élan affectueux, affectif et même amoureux. Alors, il y a un certain Sichem dont il est dit que dans Genèse 34, que son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Donc, ça, c'est probablement le sens où, en français, de nos jours, on emploie le plus le mot « cœur », pas seulement avec l'idée d'être amoureux, mais avec l'idée affect, attachement, générosité, etc. Donc, ça, c'est un emploi quand même assez massif dans la Bible. Mais, bien entendu, le plus massif, l'emploi le plus massif, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est l'homme intérieur. Mon cœur, c'est bien plus que le muscle cardiaque, bien plus que l'affect, mes entrailles, c'est l'homme intérieur tout entier, c'est moi. Et donc, 2 Corinthiens 4, verset 16, un grand classique, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Et donc, maintenant, je rappelle Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et cet après-midi, on se posera bien la question, pourquoi il y a plusieurs mots? Pourquoi il y a cœur, âme, force, esprit, pensée, et d'autres encore, de tout ton cœur? Eh bien, ça veut simplement dire, si vous voulez, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, évidemment, ne signifie pas tu auras envers l'Éternel trois amours distincts. Ça veut simplement dire tel que tu es, multifacette toi-même, multiforme toi-même, tel que tu es, aime-le tout entier. Enfin, toi entier. Parce que Dieu tout entier, l'expression n'a aucun sens. Parce qu'il n'est séparable et en rien et sécable en rien. Donc, sans cesse, la Bible associe les mots cœur et âme, ou bien cœur et esprit, sans cesse, sans cesse, mais des centaines de fois, c'est plus que ça, c'est impressionnant. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et ça veut dire la même chose, c'est-à-dire en eux-mêmes. Voilà. Alors, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écris dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Que c'est magnifique. Alors, pour en tirer un vrai profit, il y a besoin de ne pas oublier ce que nous avons dit, qui connaît le cœur de l'homme? Mais seulement Dieu. Et c'est pourquoi, quand le cœur est donné à Dieu, l'homme est en sécurité. Alors, j'ai une petite mauvaise surprise pour vous. La première mention du mot cœur dans la Bible, Genèse 6, l'Éternel vit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Aïe, aïe, aïe. Et d'où le déluge ensuite. Alors vous allez dire, heureusement, ça c'était avant. Et oui, mais Jésus dit dans Matthieu 15, dans Marc 7, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ah oui, mais ça, c'est le monde, c'est ceux qui connaissent pas Dieu, qui s'attachent pas du tout à lui. Ah bon? Il n'y a pas de mauvaises pensées dans un chrétien? Il n'y a pas de mauvaises pensées dans un couple chrétien, dans une famille chrétienne? Il n'y a pas de mauvaises pensées dans une église? Il n'y a pas d'adultère? Il y a zéro adultère dans l'histoire de l'Église. Il y a zéro faux témoignage. Il n'y a aucune calomnie dans le corps de Christ. Ça en dit beaucoup. Ça dit que, oui, Dieu nous a inscrit dans nos cœurs sa parole, sa volonté, et même il a l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Versé dans nos cœurs. Justement parce qu'il y en a besoin. Justement parce que sans ça, nos cœurs, de nos cœurs peuvent sortir de mauvaises choses. Je reviens au début, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Pensées, les pensées de leur cœur. Vous savez, les 30 centimètres les plus célèbres du christianisme, ceux qui sont mentionnés dans toutes les prédications depuis quelques siècles, il suffit pas que tu le reçoives dans ta tête, il faut que ça descende dans ton cœur. Et alors on dit, et 30 centimètres font toute la différence. Eh bien, ces 30 centimètres dans la Bible n'existent pas. Parce que les pensées ne sont pas dans la tête. Elles sont dans le cœur. Et même le cœur lui-même, ce n'est pas le cardiaque, c'est les entrailles, c'est le moi le plus profond. Donc déjà, et ça fait plus 30, ça fait 60. Et de toute façon, donc voilà, ni les 30 ni les 60 n'existent. C'est toi, c'est ta personne, c'est ton fond, c'est toi-même tout entier. Et c'est pour ça que Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais bien sûr, l'Ancien Testament, le premier, ne dit pas seulement que Dieu vit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il est écrit aussi, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La référence à l'éternité, au Créateur, donc au jugement et au salut, cette référence, bien sûr, contrebalance le fait que du cœur de l'homme peut sortir n'importe quoi. Et Jésus dit cette parole impressionnante en parlant de dans c'est dans dans en expliquant la parabole du semeur. Et donc dans Luc il y a un mot particulier au sujet du quatrième terrain où il dit voilà, ce sont ceux qui ont reçu la parole et donc ils la retiennent, etc. Et dans Luc, Jésus précise, ceux qui sont dans la bonne terre, ou qui sont de manière imagée la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent des fruits par la persévérance. Et donc Jésus, qui est ailleurs, dans un autre contexte, pour une autre raison, a dit, personne n'est bon, a dit quand même de sa bouche, en parlant de gens qui ne sont pas encore régénérés, parce qu'ils sont en train d'entendre la parole du royaume, du salut, de Dieu. Ils l'entendent avec un cœur honnête et bon. Donc, voyez, l'encouragement, il se niche partout. Partout. Alors, quelques mots encore sur prenez garde. On ne s'étonne pas de lire chez Moïse. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et n'oublie l'Éternel. Alors, quiconque lit la Bible de manière suivie, et pas seulement quelques bribes ou quelques versets sur le calendrier, quiconque lit la Bible de manière suivie, évidemment, ne s'étonne pas que Dieu ait dit ça. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Parce qu'en lisant de manière suivie, il a lu l'histoire de tant et tant de personnages, j'en évoquerai deux ou trois. Mais pourquoi cet avertissement, prends garde que ton cœur ne s'enfle? Pourquoi est-ce que j'y reviens? Pourquoi est-ce que justement je le reçois, je l'écoute? Pour moi, le premier, ne vous imaginez pas que je parle comme... Enfin voilà, je suis le premier auditeur de cette prédication. Eh bien, parce que Moïse l'a dit, Dieu l'a dit à Moïse, Moïse l'a écrit, mais notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Luc 21, donc c'est la partie où il parle de la fin des temps. Il en parle dans Matthieu, il en parle dans Marc, évidemment, Matthieu 24, Marc 13. Et donc, Luc 21, il dit une chose. Vers la fin, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent, c'est-à-dire vivent le contraire de ce qu'une prière a demandé tout à l'heure. Une prière a demandé qu'on soit sensible à la parole de Dieu et qu'on devienne insensible aux mensonges et aux séductions du diable. Eh bien, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Alors là, surprenant, Jésus vient de parler de la fin des temps, de son retour, etc. Et là, il ramène ses disciples à quelque chose de... Voilà, je lis. Ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour... Le retour de Christ ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez, dans la bouche même de notre Seigneur, encouragement sublime et avertissement sublime aussi parce que salutaire. Et donc, il dit lui-même, prenez garde à vous-même. Et prends garde à ton cœur et prends garde à toi-même, c'est synonyme, ça veut dire absolument la même chose. Et prends garde à ton âme, ça veut dire la même chose. Et prends garde à ton esprit, ça veut dire la même chose. Voilà. Du coup, on ne s'étonne pas de lire dans Proverbe 28, verset 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. C'est pourquoi, mon fils, donne-moi ton cœur. Et de nouveau, c'est une exhortation paternelle, mais derrière la voix paternelle, parentale, c'est la voix de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Alors vous allez dire, si je lui donne mon cœur, mes yeux vont se plaire dans ses voix, c'est-à-dire à voir la façon dont lui-même agit et parle, les voies de l'Éternel, mais aussi à marcher avec lui, à marcher selon ce qui lui plaît, ce qu'il aime. Voilà, donc si je lui donne mon cœur, mes yeux vont se plaire dans ses voies. Mais attention, c'est pas simplement d'après notre logique très, très, très moderne de cause à effet. Il y a beaucoup de cause à effet dans la Bible. Mais il y a aussi beaucoup de versets où deux choses, trois choses sont dites et ça va dans un sens, mais dans l'autre aussi. C'est-à-dire, tourner mes yeux vers ses voies, c'est aussi une manière de lui donner mon cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si j'investis mes yeux, mon attention, mes oreilles, Shema Israël, écoute, si j'investis mon être vers ses voies, qu'est-ce qu'il dit, comment il a agi, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a créé, comment il a appelé, comment il a délivré, comment il a inspiré, comment il a pourvu, comment il a donné son fils. Voyez, si j'investis mes yeux, mes oreilles, mon cœur, c'est-à-dire mon âme, mon esprit, vers lui, vers ses paroles et ses œuvres, c'est lui donner mon cœur. Amen. Ah oui, j'ai dit que j'évoquerai quelques personnages. Bon, ça, voilà, si vous voulez, lisez quelques parties de la vie de Saül ou de la vie de Salomon ou de David. Il est dit de Saül que Dieu lui a donné un autre cœur. Et puis finalement, comme il désobéit, eh bien, l'Éternel lui fait dire par Samuel, tu règneras plus. L'Éternel s'est choisi un autre selon son cœur. Ou bien Salomon, dans la prière, quand il est jeune, c'est « Donne, accorde-moi un cœur intelligent pour juger ton peuple et discerner le bien du mal. » Et tout le monde venait pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et puis finalement, ces femmes, trop nombreuses, détournèrent son cœur, et le contexte montre du côté de leur Dieu à elles. Mais comment c'est possible de recevoir tant et puis de se... Voilà. Mais c'est pourquoi aussi David, lui, il prie, crée en moi un cœur pur. Il prie après avoir chuté, après avoir péché, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est synonyme, évidemment. Hein? Crée en moi un cœur pur. Si Dieu ne le crée pas, il ne sera pas pur. Mais aussi, David, de nouveau, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Donc ça veut dire qu'il a vraiment changé. Psaume 27, bien sûr. Je cherche ta face, ô Éternel. Alors, dernière partie de la prédication, et en vérité plus courte. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Avec d'autres mots, et de mille manières, Dieu fait retentir cet appel. Dieu appelle. Il envoie des prédicateurs. Il envoie des témoins de l'Évangile. Il envoie les frères, les sœurs, les uns vers les autres pour s'exhorter mutuellement. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, le jour du salut. Mais il les envoie aussi vers des non-chrétiens pour dire finalement la même chose. Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Il n'a pas épargné son propre fils. mais il l'a livré pour nous tous. Voilà, vous voyez, l'appel, Dieu est le Dieu qui appelle. Et on peut dire probablement, à la fois, il m'est facile de le dire, et à la fois, ça me bouleverse et ça m'humilie. Est-ce que Dieu a avec les hommes, fondamentalement, un autre problème que leur volonté? Et ce qui me bouleverse, évidemment, c'est parce que ça me poursuit, ça. Hein? Je me le dis souvent. Est-ce que le Seigneur a avec moi un autre problème que ma volonté? Est-ce que ce n'est pas le seul problème qu'il a avec moi? Il y a la volonté naturelle, dont il est dit que l'homme nouveau, il n'est pas né de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. Elle est juste naturelle, elle n'est pas forcément horrible. Simplement, elle ne génère pas quelque chose d'éternel, d'impérissable, de saint. Après, il y a la volonté mauvaise. Éphésiens 2, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alors vous allez dire, ouf, c'est autrefois. Alors désolé mes frères, mes sœurs, soit âgés, soit jeunes. Je lis dans Acte 5, Pierre qui reprend Ananias et qui lui dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Ça ne veut absolument pas dire que le diable est venu habiter dans le cœur d'Ananias. Hein? Il n'est pas omniprésent, hein, le diable. Mais il a rempli son cœur d'une idée et donc de mensonge et donc de péché. D'un côté, je m'excuse de dire des choses pareilles. De l'autre, pas du tout, puisqu'elles sont écrites. Et que c'est peu après la Pentecôte. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a beaucoup, comment dire? Nous vivons une époque enthousiasmante parce que Dieu agit en beaucoup de personnes, dans beaucoup d'endroits et de beaucoup de manières. Et parmi ces manières, certaines sont spectaculaires et explicitement miraculeuses. Même si garder un cœur pur, c'est tout bien considéré aussi le plus grand miracle. Et beaucoup de frères, de sœurs à travers le monde, dans toutes les langues qui existent, encouragent les églises, les croyants, les poussent à être enthousiastes. Parce que Dieu a donné son esprit, il l'a mis dans nos cœurs, et son esprit nous enseigne, nous inspire, par toutes sortes de dons. Et oui, il faut accepter d'être enthousiaste, d'être. Il faut apprécier cet élan sans toutefois s'illusionner sur la nature du cœur humain, sans nous imaginer que, je vais dire au jeu, sans m'imaginer que moi, rempli du Saint-Esprit, je suis devenu infaillible, intentable, que je ne broncherai jamais, sans m'illusionner que je suis toujours inspiré, que tout ce que je dis en prédication vient de Dieu et fidèle à Dieu, que tout ce que je dis en prophétisant vient de Dieu et est fidèle à sa parole, sans m'imaginer ça. Et malheureusement, l'être humain et le chrétien reste un être humain. Il ne devient pas un être surhumain, ni extra-humain. Malheureusement, l'être humain aime bien les choses univoques, où il y a une seule voix. Il faudrait que tout ce qui est écrit dans la Bible soit enthousiasmant, que tout soit jugé positif au sens qui va dans le sens qui me convient. Tout est positif au sens que ça construit et que ça pose les choses. C'est l'origine du mot. Mais pas au sens que tout me convient. Tout ne convient pas à ma nature humaine. Vous voyez, on aime bien ce qui est univoque. Et alors, en aucun cas, la Bible n'est équivoque. C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs voix qui nous perdent. Mais elle dit des choses de diverses manières qui par moments semblent ne pas converger, mais qui pourtant convergent absolument et glorieusement, parce que les avertissements contribuent à notre sanctification et à notre salut autant que les encouragements. Amen. Du coup, on peut entendre Pierre rappeler que aucune des prophéties de l'Écriture, que les prophéties de l'Écriture, aucune n'est venue nullement par volonté humaine. Et on le sait, Dieu fait dire par Jérémie et par Ézéchiel, entre autres, n'écoutez pas les paroles des prophètes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ézéchiel dit, ils suivent leur propre esprit. Voilà. Alors, il y a un contexte hein, pour lire. N'écoutez pas les prophètes. Ceux-là, ils prophétisaient que Dieu va tout délivrer et que Israël fera bien d'aller en Égypte se réfugier et que l'Éternel va les délivrer rapidement. Alors que l'Éternel était en train de dire par Jérémie et par Ézéchiel qu'il va donner à leurs ennemis de les vaincre et qu'ils vont les déporter. Voyez, donc ils disent les visions de leur cœur. C'est plus qu'une nuance. Là, il y a un gouffre entre ce que le cœur d'un croyant en l'Éternel nourrit des paroles de l'Éternel et des œuvres anciennes de l'Éternel, un cœur nourri des grandes délivrances que l'Éternel a opérées, ce qu'un cœur peut concevoir sans se rendre compte qu'il est en train de ne plus du tout écouter Dieu et que ça ne vient pas de la bouche de l'Éternel. De ce point de vue aussi, Jésus cite Ésaïe, hein, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous voyez, les lèvres, le corps, l'être extérieur, et le cœur, l'être intérieur. Alors, pour finir, ah, j'ai plus l'heure. Je vais finir avec, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, que l'Éternel éprouve les cœurs, mais je vais finir avec une chose, l'Éternel incline le cœur. Et je vais finir avec cette prière de l'auteur du psaume 119, Éternel, incline mon cœur vers tes témoignages, littéralement, vers tes préceptes, parce que tes préceptes viennent de tes paroles et de tes œuvres. Incline mon cœur vers tes préceptes, non vers le gain. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors cette prière, pourquoi conclure avec cette prière? Parce que bien évidemment, avec les différents versets qu'on a soit lus, soit évoqués, à moins d'être vraiment naïf et vraiment de nous mentir à nous-mêmes, de nous illusionner nous-mêmes, chacun de nous, bien évidemment, nous savons, nous reconnaissons que nous ne maîtrisons pas complètement notre cœur, que nous ne l'orientons pas toujours comme nous voulons, comme Dieu veut, et comme nous voulons aussi, nous voulons que ce soit vers lui. Et globalement, puisque nous sommes chrétiens et que nous persévérons globalement, ça veut dire que ça implique que nous inclinons notre cœur vers Dieu, vers ses préceptes. Mais en même temps, nous reconnaissons que pas toujours, et qu'il est incliné vers autre chose, il est attiré, comme a dit le Seigneur, ça peut même être manger, boire et soucis, c'est même pas des péchés. Alors, a fortiori, quand il y a péché, les séductions par le monde, ou par des esprits menteurs et des doctrines de démons, a fortiori. Donc, d'où cette prière, Éternel, incline mon cœur vers tes préceptes. Et c'est bien pour ça que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Si tu me le donnes, moi je vais l'incliner. Amen.